France Inter.
Merci Timour. Le prochain flash dans une heure à 17h sur France Inter.
La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Jean-Pierre Winter.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'inconscient. Je vous propose aujourd'hui d'interroger les rapports entre la théorie psychanalytique et divers aspects de la spiritualité et de la laïcité. Ces questions font débat au sein de la recherche psychanalytique depuis l'origine, et Freud, le créateur de la psychanalyse, s'en est expliqué dans de nombreux ouvrages tout au long de son abondante correspondance, notamment avec le pasteur suisse protestant Pfister. Ces échanges l'ont conduit à écrire un livre traitant frontalement de ces questions, « L'avenir d'une illusion ». Dans cet ouvrage, après avoir remarqué que, je cite, « La voix de l'intellect est basse, mais elle ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas entendue », il conclut « Non, notre science n'est pas une illusion. Mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce qu'elle ne peut nous donner. » Manière de dire avec le poète Heine, « Nous abandonnons le ciel aux anges et aux petits moineaux. » Une illusion n'est pas une erreur. Freud assigne à la psychanalyse la tâche d'éclairer l'homme moderne pour qu'il se sépare de ses encombrantes croyances qu'il juge infantiles, voire névrotiques. C'est son point de vue de savant athée, mais nous allons voir qu'une psychanalyste, pourtant rigoureusement freudienne, Françoise Dolto, envisage de considérer l'affaire autrement. Après avoir partagé avec vous ses réflexions sur la laïcité et la spiritualité en psychanalyse, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté ce podcast, disponible sur l'application Radio France et sur toutes les plateformes d'écoute.
L'inconscient, avec Jean-Pierre Winter, sur France Inter.
Si chacun de nous arrive à exprimer ce qu'il vit au moment même où il le vit, ce qu'il a vécu est du passé sur lequel il construit ce qui va venir. Une analyse, une psychanalyse, est une méthode de travail grâce à laquelle ce qui n'a pas été vécu dans le passé se revit à l'occasion de la relation au psychanalyste. Mais ce qui est l'actuel ne se vit pas avec le psychanalyste.
Le travail de Dolto concernant plus sa spiritualité que ses croyances, s'appuie sur des exemples bibliques dont elle se sert comme de sujets fictifs qui représentent un certain état de la psyché et de la psychologie humaine. C'est ainsi qu'elle évoquera le cas bien connu de Caïn et Abel, dont Victor Hugo a fait un poème intitulé « La conscience ».
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qu'il regardait dans l'ombre fixement. Je suis trop près.
Si je devais donner un titre à son interprétation, ce serait « Mourir pour vivre », idée assez centrale de toute son œuvre. Une certaine forme de mort permet une relance du désir, de la vie. Et cette relance, dans sa spiritualité à elle, s'appuiera sur la notion de résurrection, sans la réduire à sa dimension essentiellement religieuse. Sa compréhension de la résurrection, c'est justement l'idée que les écritures bibliques sur lesquelles elle s'appuie offrent le matériel nous permettant de penser ce que veut dire mourir pour vivre, donc pour renaître autrement. On comprendra mieux avec cette citation. Lorsque le fœtus va naître, dit-elle, est-ce que vous ne croyez pas que cette naissance, s'il la prévoit, le fantasme serait épouvantable comme sensation de mort imminente ? Ainsi donc, le fœtus est mort, mais nous savons que ce qui naît est bien ce même être qui était dans le sein de sa mère. Ses modalités fonctionnelles ont muté, et ce qu'il a laissé, c'est ce qui le délivre. Disons que la naissance, comme étant la mort du fœtus, est le paradigme de l'affaire. Il est mort une première fois en tant que fœtus. Il renaît en tant que nourrisson. Et dans la petite enfance, il va se passer des choses qui vont se modéliser sur cette mort dont elle dit « Le fœtus aurait pu la fantasmer s'il avait été en état de la fantasmer, de la prévoir. » Mais si lui, il ne la prévoit pas, nous savons par expérience clinique que les mères, elles, voient la naissance de leur enfant comme la mort du fœtus, mais aussi comme la mort de l'enfant au moment même où il naît. Ce qui d'ailleurs explique bien souvent des stérilités psychologiques, dans certains cas, de mères qui se refusent à mettre au monde un enfant dont la mort est programmée, associée à une mort de la mère, symboliquement d'abord en tant que femme, et puis en tant que femme enceinte, qui devra renoncer à sa plénitude de femme enceinte. Françoise Dolto dit que par la suite, dans la petite enfance, je cite, « L'enfant vit avec l'espoir de désirer sa mère. » Cette formulation est tout de même très étonnante. Elle dit « Il ne vit pas en désirant sa mère, il vit dans l'espoir de désirer sa mère. » La psychanalyse, poursuit-elle, a fait découvrir que la force qui est donnée à un petit garçon ou à une petite fille lui est donnée par l'amour total de corps, de pensée, de désir et de cœur de ses parents, en particulier dès que sa sexualité masculine ou féminine devient claire pour lui. C'est ce désir pour son géniteur qui lui est interdit. C'est pourtant banal d'une certaine manière, mais c'est à partir de là qu'elle posera la question de la transgression. Comment, en effet, articuler le désir et la transgression ? Elle dit « Heureusement d'ailleurs que ce désir est interdit, car si l'inceste était autorisé, la libido serait comme une rivière qui se jetterait à sa source. » Il n'y aurait plus aucune dynamique, ce serait un étang, un lac. S'il y a une dynamique, c'est que l'espoir d'atteindre le but, pour Dolto, soutient notre désir. Autrement dit, c'est seulement dans un premier temps que l'enfant désire sa mère. Et c'est vrai pour le petit garçon comme pour la petite fille. C'est absolument indispensable. Il doit en passer par là, pour se sentir vivant. Françoise Dolto disait « Mais c'est toujours ainsi, on tombe sur un bec. » C'est-à-dire sur la mort de ce qu'on avait tellement désiré au point que la vie semble n'avoir plus de sens quand on ne peut pas obtenir l'objet de son désir. On se dit parfois « Si je ne l'obtiens pas, je vais mourir. » Cela explique pas mal de dépression de l'enfant, qui effectivement ne supporte pas de ne pas avoir obtenu ce qu'il pensait désirer plus que tout au monde. C'est un choc épouvantable. La sensation mortifère, l'angoisse de l'abandon, le non-sens qui perdure. Mais il y a toujours derrière, selon Dolto, la résurrection tant que nous sommes vivants et désirants de corps, de cœur et d'esprit. Le temps fait beaucoup, et l'être humain se remet à désirer. Sur le modèle de la mort du fœtus et de la naissance de l'enfant, elle théorise l'Œdipe en affirmant que la nécessaire sortie de l'Œdipe est une deuxième mort. C'est la mort de l'être désirant qui croit, qui veut croire, qui désire plus que tout ce qui lui est interdit, ce qui est impossible. Il va devoir mourir à ça, pour renaître autrement vers un autre désir. « nous espérons tous atteindre un but. Mais quand nous l'avons atteint, nous sommes tout étonnés de ne pas éprouver du tout l'inimaginable satisfaction que nous en escomptions. Et notre désir, à un moment apaisé, trouve alors un autre but à briguer. Que ce soit un désir qui nous a soutenus pendant des années et dont l'obtention ne nous a pas comblés, ou que ce soit un désir dont l'obtention n'a jamais été atteinte, nous plongeons dans une angoisse mortelle. Mais dans le même temps, nous savons que si nous continuons à vivre en nous aidant les uns les autres, un transfert se fera sur un autre objet. D'une certaine façon, Dolto introduit là la notion de transfert. Le transfert est la voie royale par laquelle l'amour nous donne accès à la vérité de notre désir. Le transfert est le moyen que Freud a découvert pour accéder à la vérité du désir et donc par là même à la vérité de l'amour. L'être est là, du fœtus jusqu'à la mort, et même au-delà de la mort pour Dolto, peut-être. La mort est pour elle une apparence. Ce qu'on appelle l'être est invisible, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas. Et cet être invisible est une permanence de l'individu, quels que soient les aléas de son histoire. Du point de vue analytique, on pourrait dire que cette permanence est équivalente à ce que Freud dit de l'indestructibilité du désir. Autrement dit, quels que soient les aléas d'une histoire, le désir est toujours à déchiffrer. Il est d'une certaine manière indépendant des événements de la vie. On en retrouve sa trace notamment dans les phénomènes liés à la répétition. Dans les histoires de chacun d'entre nous, la répétition a lieu indépendamment des circonstances extérieures, voire même des événements intérieurs. On répète dans l'entourage qu'il y a eu telle mort, tel mariage insolite, tel inceste, telle guerre ou tel massacre, etc. Pourtant, quelque chose se répétera sans tenir compte des aléas de l'histoire. Les Grecs anciens appelaient ça l'être. Mais dans le registre freudien qui est celui de Dolto, je pense qu'il s'agit du désir. Finalement, nos sens, nos perceptions, sont sans influence sur l'être, c'est-à-dire sur ce qu'il y a de permanent en nous. Dolto, je la cite, « sait qu'il n'y a pas de mort quand la vie a suivi son véritable sens pendant qu'elle était vécue. Et lorsque le désir de celui qui l'a menée l'a animée totalement en cela que son énergie est passée totalement et a réalisé son désir essentiel, il a fait ce qu'il avait à faire, c'était son problème, et il l'a résolu. » Elle dit « désir essentiel » pour faire la différence avec les petits plaisirs de la vie quotidienne, mais la question, c'est bien celle du désir difficilement conceptualisable. Ce n'est pas plus facile à penser que la notion même d'être. Lacan dit « Le désir, c'est ce qui est au-delà du besoin et en deçà de la demande. » Autrement dit, la satisfaction de mon besoin de manger, par exemple, ne comble pas mon désir. De même, il est patent que la satisfaction liée momentanément à l'agrément de ma demande, par exemple d'amour, ne met pas fin à cette demande puisque ce que je demande est différent de ce que je désire. Et quel rôle alors joue la mort dans cette affaire de désir ? Françoise Dolto écrit « Il n'y a pas de mort autre que celle de nos apparences. La mort, sans doute, est un mot aussi trompeur que celui de la vie. » La mort, ça veut dire quelque chose. Par exemple, les gens disent souvent « j'ai peur de la mort ». Ils pourraient dire « j'ai peur de mourir ».« J'ai peur de la mort », ce n'est pas la même chose que « j'ai peur de mourir ». Donc la question qui peut logiquement venir après serait « la mort de qui ?» Qu'est-ce qui est refoulé dans ce début de phrase ? Dans la plupart des cas, ce n'est pas de sa propre mort qu'il s'agit. C'est de la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de quelqu'un de proche dont le patient a toute raison de la penser ou de la souhaiter inconsciemment. C'est rare qu'à la question « J'ai peur de la mort de qui ?» il soit répondu « De ma propre mort ». La mort est une usure du corps, tout simplement. L'angoisse de mourir, ce n'est pas la même chose que l'angoisse de la mort. Si nous éprouvons l'angoisse de mourir, quand nous méditons sur notre mort, c'est comme si nous méditions sur nos processus d'évacuation toute la journée. C'est comme méditer sur ses excréments, avance Dolto. Et c'est une interprétation fondée sur la psychanalyse avec certains enfants, particulièrement névrosés, qui vivent effectivement l'évacuation de leur selle comme une mort, comme un risque de mort, avec le fantasme par exemple d'être précipité dans la cuvette des WC en même temps que le caca. Ce qui peut créer d'ailleurs des constipations douloureuses. Françoise Dolto dit « La vie qui anime un être humain est plus que ce que nous pouvons en savoir en la voyant sous la forme de ce que nous appelons la vie. Absorber, expulser, croître, mutation, reproduction et finalement épuisement et l'arrêt, puis décomposition. La vie ne serait que ça. »
C'est toujours sur le modèle de la première angoisse que toutes les mutations qu'un être humain a à vivre vont se remodeler.
Absorber, expulser, croître, muter et finalement se reproduire, mourir et se décomposer. Dolto ajoute « Nous confondons la vie avec ses manifestations partielles. Désirer, ça existe à partir du moment où nous voyons un être humain naître et jusqu'au moment où nous le voyons mourir. On voit un être humain naître jusqu'au moment où on le voit mourir, mais lui, le désirant en question, ne se voit ni naître, ni mourir. Il ne se sent que désiré et rarement arrive à ce qu'il désire. S'il y arrive, il s'aperçoit que ce n'est pas cela qu'il désirait. Quel programme ? Au sens où on est programmé.
France Inter, l'inconscient, cette semaine avec Jean-Pierre Winter.
Est-ce déprimant ? Ce n'est pas déprimant. Ce qui serait déprimant, ce serait de croire le contraire. Comme par exemple pour cet homme qui arrive dans un état désespéré disant qu'il ne comprend pas son état. Alors que dit-il, j'ai tout. C'est un médecin très obsessionnel, il croit qu'il a tout. À la question, c'est quoi tout avoir ? Il répond, j'ai une femme, un bel appartement, une maîtresse, des enfants magnifiques, un métier qui m'intéresse, etc. Puis il ajoute, je ne manque de rien. Mais c'est précisément ce rien qui vous manque. Et il rétorque, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait tout le temps manquer de quelque chose ? Je n'ai pas de réponse. Mais j'entends dans son désespoir que la conviction d'avoir obtenu la satisfaction de son désir était ce qui l'angoissait. Il ne peut dès lors que perdre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait allant à sa perte. Est-ce sa croyance ? Ce n'est pas sa croyance, c'est son fantasme. C'est le fantasme de l'obsessionnel. Effectivement, il a tout. Alors, il ne peut que perdre ce qu'il a. Mais s'il le perd, il se perd avec. Il faut qu'il préserve tout cela. Il se croit donc obligé de tout détruire. Mais il se l'interdit. Car tout détruire veut dire se priver de sa femme, de sa maîtresse, de ses enfants, de son cabinet, etc. Il est pris là dans une sorte d'étau où l'erreur fondamentale est de croire qu'il ne s'est pas trompé sur ce qu'il désire. Or tout le problème, c'est qu'il s'est trompé. Il détruit tout pour refaire du manque. C'est un peu l'histoire de Job. Dans les évangiles, sur lesquels Dolto s'appuie, Jésus réalise ses désirs même quand il se heurte à des barrières comme par exemple les institutions, le sabbat, les pharisiens, la loi, etc. S'agissant du désir et de la transgression, peut-on dire que Jésus représente, pour Dolto, l'homme non névrosé, soit le modèle même de l'homme qui va jusqu'au bout de son désir, qui ne cède pas sur son désir, qui pense et qui fait ce qu'il a à faire. Mais quel sera le prix à payer ? Est-ce un état qui serait celui de Jésus pour Dolto dans la lecture qu'elle en a, un état qui soit celui d'une totale indifférence à l'égard du sort du moi, qui peut aller jusqu'à la passion avec un grand P, donc d'une certaine façon jusqu'à la mort. Est-on sur terre pour protéger son moi ? Protéger son moi consistant en analyse à faire des manières, à annuler ce qu'on vient de dire, à penser qu'on ne peut pas parler de certaines choses, etc. Mais si on applique jusqu'au bout la règle fondamentale de la méthode analytique, à savoir, dites tout ce qui vous vient à l'esprit, cela implique, dites tout ce qui vous vient à l'esprit, quel que soit le prix psychique que vous allez payer pour l'avoir dit. Le prix à payer consistera à accepter d'écorner l'image qu'on se fait de soi ou qu'on veut imposer autour de soi. Il s'agit de se départir de l'idée que faire une analyse est possible en protégeant en même temps les intérêts du moi idéal qu'on s'est fabriqué. Ce n'est pas possible. Dolto, toujours parlant de Jésus, dit « Il transgressait toutes les petites lois en usage dans sa religion, donc dans le judaïsme, au nom de sa foi dans la véritable loi inscrite au cœur de chacun, et il osait se risquer dans cette véritable loi. » Ce n'est pas tout à fait vrai, mais peu importe en l'occurrence. Ça n'a rien à voir avec accomplir ce qu'elle nomme à ce moment-là son destin. Et même dans ce cas, son destin fulgurant. Elle reprend presque à la lettre la façon dont les évangiles sont écrits. Cela nous intéresse pour essayer de comprendre quelle est sa lecture de cette histoire. Du point de vue analytique, cela veut dire pour elle que dès notre conception, on a affaire à des signifiants qui nous précèdent et que pour vivre notre désir, il faut essayer de repérer et identifier ces signifiants un à un. Aucun être humain ne peut tout assumer, quoi qu'il fasse de sa vie, s'il n'est pas lui-même convaincu, et plus que convaincu, qu'il a à accomplir ce qu'il désire. En somme, par son agir, pour Dolto, en bonne chrétienne, Jésus incarnerait ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Il incarnerait le dire biblique. Sur ce modèle, Dolto dira que l'accomplissement de notre désir consiste à donner chair aux signifiants que l'on reçoit. Reste alors la question de la transgression dans son rapport au désir. Caïn et Abel, voilà deux êtres qui occupent une place de choix dans notre mythologie dite occidentale. Dolto appelle Caïn le valeureux premier coupable. Que s'est-il passé ? Elle retient comme première chose le fait que Caïn, dans la Genèse, est désigné comme le fondateur des villes, c'est-à-dire d'un certain mode de lien social. Caïn a tué Abel, dit-elle, et cela nous semble très mal. Mais si on regarde de près, c'est par Caïn que passera la construction des villes, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de monde sans Caïn. Il n'y aurait pas de civilisation sans Caïn. C'est sa lecture de la chose. Voilà un transgresseur, dit-elle, d'une loi que nous avons tous en nous. Tu ne tueras pas ton frère. Mais, dit-elle, nous tuons tous un frère. Où ? En nous-mêmes. Un frère que nous imaginons avantagé sans rien faire ou en faisant beaucoup moins que nous. Qu'est-ce à dire, sinon que l'être humain n'admet pas que la vie soit facile ? Cela peut s'entendre tous les jours, par exemple, sous la forme du « Je pense que ce que je suis en train de vous raconter, ça veut dire ça, mais peut-être que c'est un peu facile de le dire comme ça. » Pourtant, ce n'est pas parce que c'est facile que c'est faux. Il faudrait que ce soit difficile. Celui qui obtient toutes ses satisfactions en ne faisant rien nous sommes tentés de considérer qu'il ne doit pas survivre, d'où par exemple le mépris à l'égard des rentiers. Mais quel est le rapport avec Cain et Abel ? Cain est un agriculteur, il travaille la terre, mais Abel est un berger. Il garde ses moutons et conformément à la représentation qu'on en a tous, il ne fait pas grand-chose. Or, c'est le sacrifice de celui qui ne fait rien qui sera agréé par Dieu au détriment du sacrifice de celui qui se tue à la peine et qui, lui, sera rejeté. Alors, Cain et Abel, dit-elle, est-ce que ça ne passe pas par cette lutte victorieuse à la Pyrrhus au cours de la croissance de chacun de nous ? Ce qu'elle dit là explique en grande partie la jalousie à l'égard du bébé. Elle l'explique dans un autre texte. Quand on est un aîné, dit-elle, on ne comprend pas l'intérêt que les parents, l'entourage, ont pour cette espèce de mollusque qui ne fait rien, qu'on nourrit au sein, au biberon, qu'on nettoie, qu'on habille, qu'on promène, etc. Abel, en hébreu, vient du mot « evel » que l'on traduit en français par « vanité », c'est-à-dire « futilité », comme dans « vanité des vanités » dans l'Ecclésiaste. Donc, cette espèce de rien du tout, qui n'en fiche pas une, c'est Abel. La jalousie de Cain est jalousie par rapport à l'intérêt que la société, la mère surtout, prête à ce parasite dont il aimerait bien la disparition. Ça ne le valorise pas dans son être, cet intérêt que sa mère porte à celui qui, justement, est dans une totale, non pas dépendance, comme on le dit trop souvent, mais dans un total abus de situation. Or, c'est plutôt la dépendance de la mère qui serait en jeu. Cain et Abel, c'est une image. Françoise Dolteau ajoute « S'il n'y avait pas eu Cain, jamais l'être humain ne serait devenu un homme de société et jamais il n'y aurait eu de cité. » On pourrait s'appuyer sur d'autres exemples comme les fondateurs légendaires de Rome, Rémus et Romulus. Les fondateurs de cités sont souvent des jumeaux fratricides. Vivre dans une société, c'est être apte à vivre ensemble. Mais pour ce faire, il faut avoir purgé son besoin de tuer le voisin. Ce voisin qui est un double de nous-mêmes, qui d'une façon passive gagne le sourire des adultes par sa passivité apparente. Passivité relative. Car la perception que l'aîné a n'est pas celle que nous pouvons avoir du fait qu'effectivement, pour nous, un bébé, ce n'est pas passif, ça réagit. Dolteau dit, je cite, « Abel avait le sourire de Dieu. Mettez la mère à cette place-là. En groupant les moutons, en troupeaux, en vivant de lait et de viande, et en offrant de temps en temps un de ses moutons à Dieu. Cain, lui, était soumis aux saisons. Aux mauvaises récoltes. Il œuvrait dans le végétal. Ainsi, il était jardinier, agriculteur, tandis que Abel se promenait, faisait paître ses moutons et en tuait un de temps en temps pour manger. Alors ce paresseux, ce parasite de son troupeau, pouvait être content de lui. Dieu trouvait ça très bien. » Voilà, c'est toute la jalousie de l'aîné qui est dans cette affaire. Comment Dieu, ou la mère donc, peuvent-ils trouver ça bien ? Comment est-ce que ça peut leur plaire ? Quand je pense à tous les efforts que je fais à l'école, se dit l'aîné, pour lui ramener des bonnes notes, tous les coloriages que je fais, tous les cendriers que je lui rapporte, les colliers de nouilles, et qu'il suffit qu'il lui fasse une petite risette, et voilà qu'elle est au comble du bonheur. Mais c'est insupportable. Dolteau toujours. Il est intéressant de voir que celui qui vit passivement des processus de la vie animale, c'est celui-là qui a à être tué par celui qui travaille durement la terre pour activer les processus vitaux des végétaux comestibles. Celui qui travaille dur et qui est mal vu, du moins il le croit, tue le premier être humain, ce frère qui est au service de la vie animale. Soi-disant, vu par Cain, Dieu riait et trouvait très agréable qu'Abel lui offre des moutons, rôtis ou pas, je n'en sais rien. Alors, furieux, Cain le tue. En effet, lui, qui présentait à Dieu des légumes, des céréales, des fruits qu'il obtenait avec peine, Dieu n'avait pas l'air d'en faire cas. Il se dit, si je tue Abel, Dieu sera bien obligé de recevoir mon offrande à moi. Donc il sera bien obligé de s'intéresser à ce que je fais. En somme, le jaloux cherche comment éliminer son frère. Et c'est dans un second temps qu'il lui faudra reconnaître que le conflit entre activité et passivité est en lui. Françoise Dolto écrit, je cite, « Après avoir tué Abel, Caïn se sent très coupable et se cache, croyant que Dieu aussi, comme lui, souffre de la mort de son frère, car Caïn aimait Abel avant de tant souffrir à cause de lui. C'était son compagnon de toujours, et il se sent seul. Que se passe-t-il quand Caïn rencontre Dieu après avoir tout tenté pour ne pas être vu de lui ? Dieu lui dit « Personne ne touchera le moindre de tes cheveux et je te fais le fondateur de toutes les villes. » « Voyez ce transgresseur, dit-elle. Il transgresse une loi intérieure et pourtant Dieu le soutient et au fond de Caïn, l'être passif qu'il est en même temps qu'Abel. » Là, Dieu soutient le criminel. On pourrait dire que c'est une leçon de pédagogie psychanalytique. L'enfant qui exprime son agressivité à l'égard de son puiné a à être reconnu, pas autorisé, mais à être reconnu parce que celui qu'il vise, c'est l'être passif en lui et pas forcément le bébé en question. Après avoir éliminé son frère, Caïn s'adresse à Dieu qui lui demande des nouvelles de son frère Abel et dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il se défausse d'une certaine manière. Et suivant Dolto, on peut imaginer qu'il parle à sa mère. « Suis-je le gardien de ton fils ? T'avais qu'à faire attention. Ton petit chéri que tu aimes tellement là, comment ça se fait que tu l'aies laissé tout seul avec moi alors que tu savais que je n'avais qu'une envie, c'est de lui faire la peau ?» Pour finir, écoutons ce que disait Lacan, l'ami de Françoise Dolto. « Un certain champ s'avère indispensable à la respiration de l'homme moderne. Celui où s'affirme son indépendance par rapport, non seulement à tout maître, mais aussi bien à tout Dieu. Celui de son autonomie irréductible comme individu, comme existence individuelle. » C'est bien là quelque chose qui mérite en tout point d'être comparé à un discours délirant. Restez à l'écoute. Dans un instant, je répondrai à toutes vos questions, mais tout de suite, voici Eddy de Pretto, Urgence 911 sur France Inter.
Toi, tu connais les sourires qui me font danser tous les soirs. Comme j'aime les jours qui tirent vers de folles nuits qui se couchent tard. Toi, tu danses comme tu respires. Tu ne vas jamais me laisser m'asseoir. Tu sais travestir le pire en un simple bonheur sans histoire. Tu as l'air de savoir-faire. Tout semble si facile pour toi. Mon cœur sait, oui, mais j'en foire. Mais toi, tu danses toujours au pas. Oh, toi, tu gardes, oui, tu gardes le sourire même sous le brouillard. Mais ce soir, je ne te vois plus. Je danse seul et la piste est noire. Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences, posant ton cœur danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, et s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse? J'ai fait le 911, demandé à parler à ta bonne étoile. On m'indique qu'elle danse son dernier bal. Ce soir on voit l'adresse, c'est moi qui te soigne. Il est minuit, minuit, pas midi, midi. Oh baby, baby, je préfère gérer la nuit. Sur moi qu'on dansera même si tu die, die, die. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches? Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur danser dans l'ambulance? Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches?
tu sous surveillance, quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse. Je t'emmènerai danser quelque part, on hurlera à mort sur les boulevards. Suffira d'allumer nos gyrophares. Avant c'était toi qui dansais l'ennui. Ce soir je peux tout porter, toi et tes poésies. Je serai celui qui guide, cette nuit c'est moi qui drive. Jusqu'au petit matin, puis on se dira bye bye bye. Juste une dernière danse. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches. Dois-je appeler les urgences pour rejoindre ton cœur, danser dans l'ambulance. Sur quel pied tu danses, dis s'il te plaît, sur quel pied tu flanches. Es-tu sous surveillance quand ton cœur n'est pas sur la piste de danse.
Sur France Inter, dans l'inconscient, c'est à vous maintenant, je vous écoute.
Bonjour, je suis Myriam, et c'est avec intérêt que j'ai écouté votre émission sur Dolto et la spiritualité. La conclusion me semble un peu obscure. Est-ce que vous pourriez développer principalement la citation de Lacan, et peut-être nous dire quelle est votre position sur cette question ? Je vous remercie d'avance de vos réponses. Au revoir.
Bonjour Myriam, et merci pour votre question. En fait, la phrase de Lacan, qui sert de conclusion, dit ceci. Il existe, pour l'homme moderne, un idéal qui est celui de l'autonomie et de la liberté. La question qu'il pose dans cette citation, c'est de savoir si cet idéal est viable ou si, au contraire, il peut conduire à pire que le manque d'autonomie, voire même un délire. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que la notion de liberté est peut-être inefficace, mais profondément, nous sommes aliénés par rapport à son but et à son objet. Tout ce qui nous lie à la liberté, à l'autonomie totale, peut tendre à animer quelques mouvements dans la société, voire des révoltes. Il n'en reste pas moins que ce discours de la liberté s'articule, comme dit Lacan, au fond de chacun comme représentant un certain droit de l'autonomie qu'il questionne, justement. Les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques qu'on l'imagine, et il n'est pas indifférent que cette citation est extraite d'un séminaire que Lacan avait fait sur les psychoses, c'est-à-dire sur la folie. Alors vous me demandez, et vous n'êtes pas la seule, de vous dire quelle est ma position par rapport à ça. C'est assez complexe, mais je pourrais dire rapidement que je pense que la psychanalyse est une discipline athée. Ce qui ne veut pas dire que le signifiant Dieu est exclu de sa parole. Dieu, écrit en lettres romaines, où le U est un V, est l'anagramme de vide. Et ce vide est un opérateur qu'on peut utiliser comme dans le jeu du taquin. Vous savez, ce jeu où on a des lettres qu'on peut distribuer dans un rectangle parce qu'il y a une case vide qui permet justement de former des mots nouveaux. Eh bien, ça se rapproche, si vous voulez, cette case vide, ça se rapproche de ce qu'on pourrait appeler le hasard. Pour finir rapidement sur cette question, je dirais, ma position, c'est de penser que tout ce qu'on appelle la métaphysique n'est rien d'autre que la projection des processus inconscients dans le champ de la théologie.
Bonjour, voilà, je m'appelle Edith, je voulais vous remercier de cette émission et de cet épisode en particulier. J'aurais une question à partir de ce que dit Françoise Dolto, quand elle dit « l'enfant vit dans l'espoir de désirer sa mère », ce qui signifie qu'il ne la désire pas. Il aimerait bien la désirer, mais non, il a juste l'espoir, peut-être un jour, d'y arriver. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce alors la transgression, après, pour le désir de la mère ? Autrement dit, Jocaste savait que Dieppe était son fils. La séduction et la transgression seraient donc du côté de la mère. Bref, qu'est-ce que c'est que cet espoir de désir qu'a l'enfant ? Voilà, ben je vous remercie beaucoup de votre réponse. Au revoir.
Bonjour Edith et merci pour cette question beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, partons du principe que le désir est tourné vers l'avenir. Qu'il est désir, comme dit Dolto, désir de communication. Il n'est pas désir de passage à l'acte sexuel, il est désir de communiquer avec les personnes tutélaires, avec les personnes qui le mènent dans la vie. Or, il a affaire à quelqu'un, sa mère, sa nourrice, son père éventuellement, qui lui est désirant, mais désirant comme un adulte, pas comme un enfant. Et l'enfant se dit « J'aimerais bien pouvoir désirer comme papa. J'aimerais bien pouvoir avoir un désir. Le désir de maman. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Ce qui veut dire que c'est parce que l'autre a un désir que j'ai un désir moi-même. Mais ça peut s'entendre aussi comme « je désire avoir le désir que l'autre a ». Et c'est, je pense, ce que Dolto veut dire quand elle dit que le bébé aspire à un désir, qu'il voudrait désirer. Mais il voudrait désirer parce qu'il est un être de communication.
Bonjour, je m'appelle Alexandra. Je voulais poser une question à Jean-Pierre Winter pour son émission sur la laïcité. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour cet épisode passionnant. Mais j'ai un peu de mal à comprendre comment une telle contradiction, je veux dire, entre mon désir ou le désir du sujet peut coexister avec le désir de l'autre ou l'existence de l'autre. Comment aller jusqu'au bout de son désir aboutirait à la création d'une vie commune de la société ? On aurait tendance à penser que aller jusqu'au bout de son désir signifierait passer outre l'existence de l'autre, en allant même jusqu'à le tuer, l'anéantir. Pourriez-vous développer un peu cette contradiction et ce problème ? Merci beaucoup.
Bonjour Alexandra et merci beaucoup pour votre question. En fait, votre question peut se retourner de la façon suivante. Comment vivre en société si on ne va pas au bout de son désir ? Alors vous me direz, mais si on va au bout de son désir, on a affaire à la mort de l'autre. Peut-être, dans certains cas. Mais si l'on part du principe que le désir qui nous habite et au bout duquel on doit aller est d'abord et avant tout un désir de vie et de communication fondé sur la relation à l'autre, alors il apparaît clairement que sans l'autre, je ne peux pas aller au bout de mon désir parce que du coup, je suis sans désir. Là où il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'autre. C'est le cas, par exemple, de la morale de Sade dans la philosophie dans le boudoir. Pour que je désire, il est absolument indispensable que l'autre incarne la vie et que je me réfère à cette incarnation qui me renvoie en miroir mon désir de vivre. Et alors, je dois trouver le chemin qui me permettra de vivre malgré toutes les embûches et tous les obstacles que je pourrais rencontrer dans ma vie.
Dans l'inconscient, nous poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions après Norah Jones, Running sur France Inter. Running, oh, keep running away. Oh, does it hurt me? poursuivons nos échanges à l'écoute de vos questions.
Michael de Montpellier. Est-ce que le Jésus de Dolto est un Jésus profane qui incarnerait quelque chose d'universel qui se trouverait dans chacun de nous? Cela ne tiendrait pas de l'énoncé, mais de l'énonciation, du dire plutôt que du dit. Une sorte de passeur où la vérité de la parole ne se vérifie pas au fait qu'elle contient des choses vraies, mais en ce qu'elle a un effet de vérité qui modifie la compréhension du monde, des autres et de soi-même. Merci pour votre retour.
Bonjour Michael. Par votre question, je pense que vous avez compris l'essentiel. En effet, Jésus, pour Dolto, est un passeur. Un passeur qui incarne quelque chose d'une dimension universelle inconsciente. Le Dieu dont elle parle, celui que Lacan appelait le « dieur », pour jouer sur la condensation du mot « Dieu » et du mot « dire », le « dieur ». Ce « dieur », l'important, n'est en effet pas d'y croire ou pas, mais de s'en servir comme d'un opérateur, comme d'un passeur. C'est un peu vrai aussi, d'ailleurs, du Père. En l'absence de sa définition, car c'est très difficile de définir ce qu'est un Père si on ne se réfère pas à la dimension autoritariste ou patriarcale de la notion de Père. Le Père, en ce sens, donc en l'absence de définition, est un opérateur indispensable pour parler. Einstein disait « Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. » La question n'est pas celle d'y croire ou pas. La question est de savoir s'en servir. La croyance en Dieu, si on croit, comme vous le dites, que c'est le contenu de sa parole qui importe plus que les effets de sa parole ou de l'existence de sa parole, la croyance en Dieu peut nous conduire à la culpabilité parce que Dieu est exigeant et qu'on a toujours le sentiment de n'en pas faire assez pour le satisfaire, ou bien peut nous conduire au contraire à nous déculpabiliser de tous nos actes puisque, en quelque sorte, on rendrait Dieu responsable de ce qu'on fait. Je le fais parce que Dieu l'a voulu. En fait, pour un psychanalyste, et pour Dolto, qui se sert de Jésus comme d'une image, comme d'un concept, en quelque sorte, indépendamment de la question de savoir si elle croit à son existence ou à la, aux vertus de son dire, en fait, pour un psychanalyste, Dieu, c'est ce qui se passe dans les tréfonds de l'inconscient. C'est le ça énigmatique. Dieu est inconscient.
Merci, Monsieur Winter, pour votre éclairage du mythe de Caïn et Abel. Votre récit vivant et humoristique en favorise la compréhension. D'ailleurs, serait-il possible que vous consacriez d'autres émissions au mythe et au regard de la psychanalyse sur ces textes sacrés? Mais voici ma question pour cette émission. Pourriez-vous expliciter la pensée de Lacan que vous citez à la fin de votre exposé? Est-ce que chercher une indépendance irréductible à un dieu, pour l'homme moderne, serait un chant des sirènes? En quoi c'est un discours délirant? Merci pour votre réponse.
Bonjour Christine, et merci pour votre question. Oui, on peut se servir des textes antiques, que certains considèrent comme sacrés, et les mettre sur le même plan que les mythes platoniciens, les mythes grecs, les mythes latins, les mythes germains, et essayer d'apprendre ce qu'ils nous disent, en tant qu'ils sont des projections de notre univers inconscient, ce qu'ils nous disent de nous-mêmes et de nos désirs inavouables. Dans le cas de Caïn et Abel, on aurait pu poursuivre l'analyse du mythe, par exemple, en faisant remarquer que quand le texte dit « Caïn dit à son frère Abel, et ils allèrent au champ, et Caïn tua Abel », eh bien, on s'aperçoit que le texte ne dit pas ce que Caïn a dit à Abel. Autrement dit, ce que Caïn a dit à Abel l'a poussé à tuer son frère. Et donc, à partir de là, on peut commencer à essayer d'imaginer ce que ça pourrait être qu'une parole
qui est prononcé et qui vous pousse à un passage à l'acte éventuellement criminel. Voilà une façon aussi d'étudier ce mythe, d'une façon un peu différente de Françoise Dolto. Ensuite, vous voulez que j'éclaire la phrase par laquelle j'ai terminé en citant Lacan. Je vous dirais que la psychanalyse, et je crois que c'est un des sens de ce que Lacan a voulu dire, la psychanalyse ne se pose jamais sur le plan de la liberté, autrement dit de l'autonomie absolue. Mais il est vrai que ce discours est toujours présent, qu'il est constant à l'intérieur de chacun d'entre nous, avec ses contradictions, avec ses discordances, comme dit Lacan. Contradictions et discordances qui sont personnelles tout en étant communes. Toujours imperceptiblement, ou non, voire délirant. La psychanalyse vise ailleurs l'effet du discours à l'intérieur du sujet. Et pour cela, il faut se souvenir, pour le comprendre, que c'est précisément parce que le psychanalyste se place dans un renoncement à toute prise de parti sur le plan du discours commun qu'il peut opérer sans soutenir une revendication d'autonomie absolue ou de liberté qui conduit aux pires excès. Merci pour vos questions et merci à Maxime Goudard à la technique, à Juliette L'Orphelin pour le choix de la musique, à Franck Olivard qui récolte vos questions et à Jérôme Boulet à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Lofer. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast dans l'application Radio France, sur toutes les plateformes ou sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr. Et lui laisser des messages par note vocale ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 28 avril pour mon prochain épisode.